merci infiniment à la Fondation Brochet pour cette invitation qui m'honore et qui me ravit. Je suis très contente de pouvoir parler devant vous aujourd'hui parce que j'ai terminé ma thèse il y a 2 mois à peine. Donc c'est la première fois que je peux vraiment parler de ma thèse devant un public et présenter mes résultats. Donc je suis très heureuse de faire ça aujourd'hui devant vous. Alors pour commencer, je vais me présenter un petit cadre conceptuel, un cadre contextuel dans quelles conditions ma recherche a été mise en place. Elle s'inscrit dans la question de l'histoire du handicap et de l'évolution des regards de la société sur les situations de handicap et sur les personnes en situation de handicap. Alors je ne vais pas vous faire un historique détaillé parce que ce n'est pas le lieu ni le sujet de mon intervention. Si cette question vous intéresse, vous avez des ouvrages indiqués sur cette diaporama. Mais l'histoire du handicap, l'histoire des personnes en situation de handicap a évolué en même temps que les sociétés. Les paradigmes ont changé d'une période à l'autre. Je vous donne quelques exemples de grandes périodes pour que vous compreniez dans quelles conditions s'inscrit ma réflexion. Par exemple, dans l'Antiquité, les infirmes étaient totalement exclus de la société parce qu'on considérait les situations de difformité physique comme des malédictions divines, comme des impuretés. Les enfants porteurs de difformité pouvaient être tués à la naissance, par exemple. Donc, à cette époque, avant le Moyen-Âge, les personnes en situation de handicap étaient réellement exclues ou poursuivies par les dynamiques sociales. À partir du Moyen-Âge, on a en tête les institutions comme les hôtels-dieu, les hospices, dans lesquels on regroupait cette fois-ci les personnes porteuses de handicap. Vous voyez à gauche de l'écran une illustration de Brugel intitulée Les mendiants, qui représente ces parties de population qui étaient regroupées donc, dans des institutions. Sous couvert d'une politique de l'assistance, en réalité, on cherchait à contrôler les corps différents en les enfermant dans des institutions qui les mettaient à l'écart du groupe. Et c'est seulement à partir du XVIIIe siècle que la société commence à changer de regard sur les situations de handicap et qu'on va chercher à rééduquer les corps, rééduquer les déficiences pour leur permettre, pour permettre aux personnes en situation de handicap de réintégrer la société et le reste du groupe social. Et c'est véritablement au XIXe et au XXe siècle que la question de la réadaptation fonctionnelle se formalise et se met en place. Vous voyez au centre des images de soldats amputés lors des guerres du 19e et 20e siècle. C'est par ce biais-là, des soldats amputés, qu'on va chercher à réparer véritablement les corps par le biais de dispositifs techniques, au départ des béquilles, des jambes de bois, etc., pour finalement arriver à la situation dans laquelle nous sommes actuellement, à savoir que les personnes en situation de handicap sont de mieux en mieux intégrées à la société et aux activités sociales, même si, évidemment, elles restent encore trop mises de côté en termes d'accessibilité publique, d'accessibilité à l'emploi, d'autonomie financière. Il y a beaucoup de progrès à faire encore, mais elles ont tout de même, depuis quelques décennies, accès à des activités. Vous voyez ici des images des Jeux paralympiques de Sochi. De plus en plus, les personnes en situation de handicap réussissent à intégrer la norme et les activités sociales. Alors, la question de l'amputation, dans ce cadre, elle s'inscrit de façon très spécifique parce que les dispositifs d'assistance au corps, qui sont donc les prothèses, ont évolué de façon tellement rapide ces dernières décennies qu'elles mettent en avant, elles permettent d'envisager des perspectives de réparation qui vont bien au-delà de celles d'autres types de handicaps moteurs. Les personnes amputées, appareillées, ont donc, dans notre ère contemporaine, vu leur image se transformer radicalement, et de plus en plus, on va jusqu'à les considérer comme étant valides, parce que leur dispositif évolue de façon spectaculaire. Vous pouvez voir quelques images ici, notamment grâce aux progrès technoscientifiques, à la robotique, aux prothèses de sport, etc. Donc les personnes amputées, appareillées, désormais, sont presque une catégorie à part dans le monde du handicap, et on en vient à les confondre souvent avec les catégories valides, ce qui a fait l'objet donc de ma recherche. On voit apparaître, notamment ces toutes dernières années, un paradigme relativement nouveau qui est celui de l'augmentation humaine, à travers justement ces progrès technoscientifiques, et l'on va imaginer dans certains cas que les personnes appareillées non seulement ne sont plus en situation de handicap, mais seraient même plus valides que les valides, seraient augmentées, bénéficieraient de capacités supérieures, grâce à leur appareillage. Et tout ça, ça s'est constitué au travers aussi d'un environnement culturel, d'un mythe technologique que l'on peut voir dans les œuvres culturelles. Vous voyez par exemple des images d'un jeu vidéo sorti il y a quelques années qui évoque un futur dans lequel les porteurs de prothèses seraient avantagés par rapport aux personnes dont le corps biologique serait intact. En bas de l'écran à droite, vous avez l'image de présentation d'une compétition qui a eu lieu à Zurich en 2016, qui s'appelle le Cibathlon, qui met en compétition des dispositifs prothétiques, des personnes porteuses de dispositifs prothétiques, et qui a été présentée dans les médias comme une course de transhumains, une course d'hommes augmentés, une course de cyborgs. Donc cet univers technologique qui est vraiment rattaché à la question de l'amputation et de l'appareillage, elle vient transformer l'image que l'on a de la question du handicap dans le cadre de ce champ médical. Les jeunes générations, et notamment les enfants, sont tout particulièrement touchés par ce profil pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'ils représentent l'avenir, d'autre part parce qu'ils naissent dans ce monde dans lequel une sorte de techno-enchantement, c'est-à-dire une vision féerique de la technologie prend place. Et il y a des études, par exemple, comme vous voyez ici, un travail d'Anna-Maria Lamel sur les Cyborg Child, qui évoque la façon dont les nouvelles technologies transforment les dispositions cognitives des enfants des toutes jeunes générations. Leur usage des technologies vient modifier la façon dont ils ont une relation au corps, une relation à la pensée, une relation à l'espace, etc. Donc les jeunes enfants qui naissent dans cet univers technoscientifique s'approprient de façon très différente, que ce soit physique ou psychologique et culturelle, ces perspectives de réparation du corps. Et bénéficient aussi d'une capacité d'adaptation au dispositif qui est toute particulière par rapport au reste de la population amputée, parce que leur schéma corporel, leur plasticité, leur capacité d'adaptation est encore très mobile, très fraîche, et ce sont la catégorie de population qui utilise le plus facilement leurs prothèses. Et ce n'est pas un hasard si les figures amputées les plus célèbres, celles qui contribuent à modifier le champ du handicap, sont des personnes qui ont été amputées dans l'enfance. Vous voyez ici trois personnalités qui sont des personnalités amputées qui ont fait bouger les lignes sur l'image du handicap, sur les représentations du handicap. Et toutes les trois ont été amputées dans un âge très très précoce et se représentent, sont considérées comme des personnes bioniques, des personnes plus que valides, des personnes qui font bouger les lignes et changent les paradigmes sur l'amputation. Donc vous voyez ici Amy Mullins en bas à gauche, Berthold Meyer en bas à droite et Tilly Lockey en haut au milieu, qui sont trois personnalités qui ont fait la une des médias et qui parlent régulièrement de leur situation. Donc ce cadre étant présenté, ma thèse, ma recherche porte sur la déconstruction de ces images. Face à ces images féeriques, enthousiasmantes, positives de la technologie, il existe malgré tout une réalité qui est bien différente et mon approche, elle est pragmatique, elle cherche à savoir ce qu'il y a dans les coulisses. Donc, lors d'une recherche que j'ai menée en 2010, je me posais la question des processus d'adaptation du corps à la prothèse. Comment une personne amputée fait-elle pour utiliser une prothèse et s'adapter à l'usage d'un outil comme celui-ci? Je suis allée dans un centre de réadaptation faire des travaux d'observation. Et lorsque je suis allée dans ce centre, j'avais en tête toutes ces images que j'avais vues dans les médias, tous ces travaux que j'avais étudiés dans le champ scientifique. Et j'ai été très surprise de réaliser que la population que je m'attendais à rencontrer n'était pas présente. Tous ces amputés jeunes, ces amputés enfants, ces personnes en bonne santé physique avec des prothèses impressionnantes n'étaient nulle part dans mon terrain d'observation. J'ai rencontré une population bien différente, essentiellement âgée, malade, avec des problématiques de vie et d'usage qui étaient à l'opposé de ce à quoi je m'attendais. Pour vous donner quelques chiffres, un tableau de la réalité de cette population, il s'agit majoritairement d'une population âgée, à la santé fragile et relativement limitée dans son autonomie et sa liberté d'action. En moyenne, on réalise en France entre 5 000 et 9 000 nouvelles amputations par an, donc c'est un phénomène qui est relativement important tout de même. Et parmi les causes d'amputation, les causes accidentelles, celles que l'on a tous en tête, ne représentent en réalité que 10% des cas d'amputation. Donc les amputés en bonne santé ne constituent que 10% du panel réel. Les 90% sont des personnes qui ont été amputées pour des causes liées à des maladies, notamment vasculaires, dans 80% d'entre elles, donc des thromboses, des problèmes de vascularisation. Très peu, moins de 5% sont constitués d'amputations pour des causes congénitales, des causes tumorales ou des causes infectieuses, des infections fulgurantes. Et il est à noter que 50% des personnes amputées sont diabétiques et leur amputation est directement liée à leur diabète. L'âge moyen est quand même relativement élevé puisque l'âge moyen de la première amputation est de 69 ans. Les enfants, pour leur part, représentent seulement 3% de la population amputée, et dans leur cas, 60% des enfants sont amputés pour des causes d'agénésie ou de dysmélie, c'est-à-dire de malformation de membres ou d'absence de membres à la naissance, donc sont amputés dans la première année de leur vie, mais peuvent aussi être victimes pour les 40% restants d'amputations traumatiques, notamment liées à des accidents de la circulation ou à des infections sévères, comme le purpura fulminans par exemple, et de façon très exceptionnelle, des cancers. En France, 370 enfants naissent chaque année avec une altération congénitale, entre 1500 et 4500 aux USA, ce qui représente moins de 1%, de 1 pour 1000 des naissances. Donc la population d'enfants amputés est relativement faible, mais elle est concernée par des problématiques qui sont très différentes de celles de la population plus âgée. Il est important de réaliser aussi que dans la plupart des cas d'amputation, notamment celles liées au diabète, c'est-à-dire la moitié, il s'agit de maladies évolutives qui vont entraîner des amputations successives. 55% des personnes amputées diabétiques vont se faire réamputer une seconde fois dans les 2 ou 3 ans qui suivent leur première amputation. Et cela peut continuer à plusieurs reprises. Le taux de mortalité qui suit l'amputation est de 10% le premier mois qui suit l'amputation. Il monte à 30% la première année, 50% la deuxième année et grimpe progressivement jusqu'à 90% au bout de 10 ans. Ce qui signifie que parmi les personnes amputées, seuls 10% survivent 10 ans après leur amputation. Donc on voit que les profils sont quand même relativement complexes et fragiles. On est bien loin des images que nous avons vues en début d'intervention. Pour ce qui est de l'appareillage, le tableau est peu glorieux également, puisque l'appareillage n'est pas toujours envisageable. Dans les pays industrialisés, pardon, seulement la moitié des amputés bénéficient d'une prothèse. On peut donc supposer que c'est encore pire dans les pays en voie de développement. Et même lorsqu'ils sont appareillés, la prothèse n'est pas une solution miracle, puisque seuls 80% des personnes appareillées de moins de 50 ans retrouvent leur mobilité après l'appareillage, contre 6% seulement pour les personnes de plus de 80 ans. Un phénomène important qui est l'abandon des dispositifs prothétiques, ce qu'on appelle les prothèses placard, parce qu'elles sont mises au placard, est également un phénomène très fréquent. Entre 40 et 80% des personnes amputées en fonction de la tranche d'âge, 40% pour les moins de 50 ans et 80% pour les plus de 80 ans, cessent d'utiliser leurs prothèses au bout d'un an. Et donc se retrouvent sans appareillage, à se débrouiller dans la vie de tous les jours sans leurs prothèses. Donc on voit bien à travers ces chiffres que la réalité est bien loin de ce qu'on veut nous faire croire sur les possibilités de réparation du corps, sur les possibilités d'appareillage et sur les perspectives d'avenir, y compris pour les jeunes générations, de réparation du corps. Les prothèses ne doivent jamais être considérées comme des solutions miraculeuses. Elles sont, dans la réalité, rarement aussi impressionnantes que les prothèses que l'on voit dans les médias. Ici, vous avez des images des dispositifs habituels qui sont prescrits à la plupart des amputés. Alors, on a fait beaucoup de progrès ces dernières années, évidemment, notamment en matière de haute technologie. Et pourtant, on n'est toujours pas en mesure de créer des appareillages qui sont suffisamment confortables pour être portés toute la journée, toute la semaine, en permanence, sans inconfort pour les patients, ou des prothèses qui soient faciles à contrôler. Esthétiquement, elles peuvent être également très insatisfaisantes. Bref, même avec la haute technologie actuelle, on n'arrive pas à régler les problèmes fondamentaux des personnes en situation d'amputation. D'autre part, il est bon de savoir que les prothèses ne sont pas polyvalentes, elles sont souvent restreintes à une tâche. Une prothèse de marche ne permet pas de courir, elle ne peut pas aller dans l'eau, elle ne peut pas marcher sur des sols mouvants. Donc une personne amputée est obligée d'enlever sa prothèse à chaque fois qu'elle va dans sa salle de bain pour prendre sa douche, à chaque fois qu'elle va se coucher. Elle ne peut pas aller à la plage avec, etc. Il y a des tas de situations qui nécessitent d'acheter d'autres prothèses complémentaires. Et évidemment, financièrement, cela nécessite d'avoir une autonomie financière assez importante pour pouvoir s'offrir ces différents appareillages. Je vais passer également sur le fait que les démarches de réadaptation sont des processus très longs, douloureux, compliqués, pénibles et itératifs. On doit régulièrement revenir pour réapprendre à utiliser notre prothèse. C'est jamais acquis pour la vie. On peut revenir en arrière dans un processus pour cause de fatigue, de maladie, de vieillissement. Et par exemple, les jeunes enfants qui sont appareillés grandissent et donc doivent tous les ans reprendre un nouvel appareillage adapté à la nouvelle taille de leur corps et donc doivent réapprendre chaque année à utiliser un nouvel appareillage dont les modalités peuvent être différentes. On voit que c'est un processus qui n'est jamais acquis et qui nécessite un recommencement perpétuel. Donc dans tout ce contexte, l'objectif de ma thèse, c'était de dresser un panorama des représentations publiques, des discours menés autour des personnes amputées, et de confronter ces représentations avec la réalité de terrain et les discours et problématiques des usagers et des personnes concernées pour pouvoir moduler, rééquilibrer ces décalages de discours et proposer des pistes de résolution de malentendus qui auraient été analysés. La méthodologie que j'ai utilisée, c'est un répertoire systématique des thématiques les plus récurrentes dans les médias, mais aussi dans les productions scientifiques, ainsi que un répertoire des thématiques les plus fréquentes des personnes concernées par le biais d'entretiens et d'observations dans les centres de réadaptation auprès de cette population. Donc je vais vous présenter mes résultats. Que peut-on tirer de ce répertoire systématique et comment peut-on comparer ces différentes représentations entre ce qu'on veut nous donner comme image de l'amputation et de l'appareillage et ce qu'il se passe sur place dans le cœur même de ce milieu et des populations concernées. Bon, le tableau est trop petit, vous ne pouvez pas voir les résultats, mais je vais les commenter. Alors tout d'abord, pour le champ médiatique, qui est le plus dense, j'ai mené des recherches sur Internet par mots-clés spécifiques, amputation, prothèse, prothèse de bras, et j'ai répertorié systématiquement les 30 premiers résultats proposés par les moteurs de recherche de 2010 à 2017 pour chaque année, ce qui m'a permis d'obtenir plus de 2000 articles, textes, vidéos. Et donc ces 2000 résultats, je les ai classés par thème, par sujet et axe abordé. L'idée, c'était d'obtenir une photographie d'ensemble des thématiques les plus communes récoltées dans les médias. Donc j'en ai tiré la typologie suivante. L'image globale que l'on a lorsqu'on se renseigne sur l'amputation, si par exemple vous faites l'expérience et que vous voulez chercher des informations sur l'amputation, vous allez essentiellement tomber sur des histoires de vie atypiques, extraordinaire, jamais neutre, que ce soit du côté négatif et dramatique, avec des accidents de vie terribles, des infections qui ont entraîné des amputations multiples, des portraits effrayants, ou à l'inverse, des portraits spectaculaires d'amputés qui vont réaliser des exploits, gravir des montagnes, traverser des rivières, etc. Donc on n'aura jamais des portraits neutres, ce sera toujours empreint de sensationnalisme. L'autre grande caractéristique, c'est une présentation de progrès technologique spectaculaire. Les prothèses mises en avant dans les médias sont toujours des prothèses dernier cri ou avec un design très fort, mais on peut constater qu'elles ne sont jamais éprouvées en conditions réelles. On présente les prothèses, mais pas les cadres d'utilisation dans lesquels elles peuvent intervenir. Enfin, on constate que la médiatisation est toujours tournée vers l'espoir technologique et la performance physique. En gros, l'offre discursive que vous avez dans les médias est toujours liée à un mythe de la réparation du corps et des possibilités dans l'avenir changer les caractéristiques corporelles. Les enfants sont très souvent utilisés, vous avez peut-être vu vous-même ces images d'enfants à qui on donne des petites prothèses 3D en forme de mains de super-héros, etc. On envisage toujours une direction vers un avenir technologique de réparation corporelle. Pour ce qui est des discours scientifiques, j'ai procédé de la même manière à un répertoire bibliographique. Dans le cadre des productions médicales, j'ai fait un recensement des interventions en congrès nationaux dans le milieu de l'orthoprothétique et de la médecine physique et de réadaptation de 2008 à 2017, ce qui m'a permis de récolter 232 conférences et donc résultats que j'ai comparés. On y réalise que l'approche médicale est essentiellement technicienne. Les médecins et les soignants s'emparent de la question de l'amputation du point de vue technique, donc les protocoles de réadaptation, les caractéristiques des matériaux, des dispositifs, les questions chirurgicales, etc. Et que, étonnamment, seulement 5% des travaux concernent la question du vécu subjectif, de la douleur, de la souffrance. Étonnamment, ces questions importantes sont très peu évoquées par les médecins en congrès. Alors que, j'ai, en comparant avec les travaux des jeunes soignants, les travaux de fin d'études, d'études infirmières par exemple, la question de la douleur est très présente dans la restitution des problématiques que les jeunes soignants mettent en avant dans leurs travaux. Pour ce qui est du champ des sciences humaines et sociales, duquel je proviens, donc j'ai été intéressée par savoir de quoi parlaient mes collègues, sur les 140 travaux que j'ai répertoriés, on parlera essentiellement d'hybridité et de normes sociales, pour la moitié des références relevées, mais aussi, plus étonnamment, de la question de l'augmentation humaine. Un tiers des travaux en sciences humaines et sociales abordent la question de l'amputation et des prothèses sous l'angle de l'augmentation humaine. Ou des pratiques sportives, pour donc les trois principales thématiques les plus relevées. Donc même les scientifiques, en sciences humaines et sociales, dressent un portrait de la personne amputée comme étant surhumaine, hybride, sportive, donc donne une image relativement biaisée par rapport aux chiffres qu'on a pu voir en début d'intervention. Enfin, j'ai donc, comme je l'ai précisé, mené des entretiens et des observations auprès des patients pour savoir tout simplement comment eux se représentaient, quelles étaient leurs problématiques de vie, leur rapport à la prothèse. Et là, les résultats sont relativement différents des résultats scientifiques et médiatiques que j'ai relevés. Parmi les thèmes les plus communs, le vécu émotionnel est très présent. Donc, il est abordé par tous les interlocuteurs sans exception, que ce soit de façon négative ou positive. L'historique médical est également au centre des propos. On sent que tous les patients ont traversé un historique médical lourd et que ça les a marqués et que ça les habite encore. La question de l'insertion sociale est également récurrente. Le fait de pouvoir réinsérer le groupe social, réinsérer des activités, etc. L'appareillage et ses caractéristiques est aussi relativement abordé, de même que les activités et les loisirs qui sont accessibles avec ces dispositifs. Et enfin, la question de l'image du corps revient de façon très fréquente. Donc en analysant de façon plus précise les verbatims, les contenus des propos que j'ai relevés, les grandes caractéristiques des discours formulés par les usagers sont qu'ils sont marqués par les épreuves médicales et par une rupture biographique provoquée par la maladie ou l'accident. Donc ce sont des personnes qui vivent encore avec cette crainte médicale, qui vivent encore avec ce passif de blessures, de souffrances. Ils font tous état d'un objectif fort de réinsertion dans le groupe social et de réintégration dans la vie normale. Quasiment tous disent qu'ils veulent être considérés comme des personnes comme les autres, pas comme des surhumains ni comme des personnes handicapées, mais comme tout le monde. Et ils témoignent tous d'une approche pragmatique et réaliste de l'appareillage. Ils ne sont pas dans des visions futuristes ou imaginaires. Leur appareillage, ils vivent tous les jours avec. Donc ils ressentent les contraintes physiques, les limites techniques, les difficultés d'usage. Et ça, c'est très présent dans leur approche et dans leur discours. Donc après avoir récolté toutes ces données, j'ai essayé de comprendre quels étaient les points de divergence et de convergence et comment on pouvait interpréter ces malentendus et ces visions contraires dans les différents discours publics. J'en ai identifié quelques-uns. Ce qui m'a intéressé, c'est plutôt les divergences. La divergence principale, elle concerne les progrès technologiques. Qui est le point d'entrée principal dans les discours médiatiques, même si cette question est peu présente sur le terrain de la réadaptation fonctionnelle. Les usagers, eux, abordent les progrès technologiques sous l'angle des limites et des défaillances des dispositifs prothétiques parce qu'ils voient ce qui ne fonctionne pas au quotidien. Ils voient que c'est difficile à contrôler, ils voient dans quel cadre ils ne peuvent pas utiliser leur prothèse. Donc ce sont vraiment eux qui révèlent les coulisses et les limites de ces dispositifs. La question de la performance et de la réparation du corps, elle est centrale dans tous les discours, même si elle est abordée du point de vue différent par les personnes amputées qui traitent la question du dépassement de soi plutôt en le mettant en lien avec le dépassement de la douleur et la réconciliation avec son propre corps dans le cadre d'un parcours de reconstruction physique et identitaire. le terme de l'identité normative, lui aussi prête le flanc à certains malentendus ou décalages. Dans le champ des sciences humaines et sociales, ce thème mobilise la notion d'hybridité, le concept de cyborg, mais aussi, on l'a vu, toutes les questions liées à l'augmentation humaine. Alors que dans le cadre du monde de la réadaptation fonctionnelle, ces questions de cyborg, d'augmentation et de relations corps-machine ne font référence à rien de réel, de palpable, de concret. L'objectif abordé par les soignants et les usagers, c'est plutôt de revenir à une norme physique, sociale, pouvoir reprendre des activités usuelles. Enfin, la question de la souffrance et du stigmate du corps handicapé, ou en situation de handicap, est assez contradictoire. On l'a vu, elle est très peu présente dans les discours physiques, les discours scientifiques ou médiatiques. Elle peut l'être de façon sensationnelle dans les histoires de vie dramatiques évoquées par certains médias dans la presse. Mais de façon générale, on en parle peu, alors qu'elle est omniprésente dans le terrain de la réadaptation. Les personnes concernées vivent ces souffrances chaque jour. Alors, comment expliquer que les discours soient tellement divergents d'un champ à l'autre? Ce que j'ai pu analyser, c'est qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui sont structurels, qui expliquent, qui justifient ces décalages entre ce qu'on croit connaître des personnes amputées et de leur appareillage et ce qu'il en est réellement. Le premier biais, c'est la question du validocentrisme. Alors, le validocentrisme, c'est le fait que notre société est conçue par des valides, pour des valides, et que les personnes en situation de handicap ne font pas partie de ceux qui construisent les normes sociales. Donc, vous voyez qu'on a toujours des problèmes d'accessibilité dans les lieux, etc., parce que les valides, ne vivant pas des situations de handicap, ne peuvent pas anticiper des problématiques très pragmatiques. Donc, tous ces discours, tous les producteurs de ces discours sont en grande partie des personnes valides qui ne vivent pas l'appareillage et qui donc projettent leur propre grille de lecture, leur propre biais et donnent une image qui n'est pas authentique, qui est en fin de compte biaisée par ce regard valide. L'autre grand biais, c'est la question de la temporalité, et c'est vraiment le biais structurel qui me semble le plus important pour expliquer ces divergences entre ce qu'on croit connaître et ce qu'il en est. Déjà parce qu'il y a plusieurs temporalités qui viennent se percuter, notamment la temporalité du parcours de soins, qui est très longue, la réadaptation, l'apprentissage de la prothèse, la reconstruction corporelle et l'acceptation identitaire sont des processus qui sont très lents, qui se déplient parfois sur toute une histoire de vie, et qui vient se heurter à la dimension immédiate et figée des histoires qu'on voit dans les médias. Les personnes que vous voyez dans les discours collectifs, on les voit à un instant T de leur vie, lors d'une course sportive par exemple, ou lors d'un essayage. Mais on occulte tout ce qui s'est passé derrière, on occulte tout le processus d'apprentissage, toutes les douleurs qui ont été franchies, dépassées, toutes ces complications de la vie. En fait, ces discours sont toujours désincarnés, ils sont toujours détachés des situations réelles du quotidien. Ça, c'est aussi dû à la logique des productions de discours. Par exemple, dans le champ scientifique, vous le savez sans doute, les financements de recherche sont toujours limités dans le temps. On subit une course à la publication qui pousse les chercheurs à aborder les sujets de façon plus restreinte d'un point de vue temporel. Travailler sur un sujet pendant un an ou deux ne permet pas d'obtenir les mêmes résultats qu'en faisant une observation longue sur 10 ans, par exemple, et en prenant le temps vraiment de détailler les contenus analytiques. Donc ces confrontations de temporalité, elles viennent expliquer pourquoi, en fin de compte, l'image que l'on a dans les discours publics est toujours une image de surface, une image qui est détemporalisée, qui est figée dans le temps, et qui ne permet pas de comprendre des problématiques qui, elles, par contre, s'inscrivent dans une histoire de vie, dans un parcours de vie beaucoup plus long, et dans un cadre situationnel beaucoup plus large. Au-delà de ces questions de temporalité et de validocentrisme, il y a tout de même des explications théoriques et conceptuelles qui permettent d'expliquer pourquoi on crée ces malentendus discursifs et pourquoi il y a tant de différences entre la situation des amputés dans la vie de tous les jours et leur présentation dans les discours collectifs. La question de la corporéité à l'ère contemporaine est un bon biais de compréhension. Il y a des travaux en philosophie du corps et en sociologie du corps qui expliquent bien, vous pouvez par exemple consulter les travaux de David Le Breton qui sont assez éloquents sur cette question, explique bien combien l'ère contemporaine a généré une sorte de réductionnisme du corps. Notre corps est perçu comme un assemblage d'organes, comme un objet génétique. On réduit le corps à ses données scientifiques, à ses données physiologiques, et on va considérer que, puisqu'il s'agit d'un assemblage d'organes, on peut le réparer, on peut le remplacer. Il suffit de trouver des procédés scientifiques qui permettent de reconstruire ce qui a été blessé ou altéré. On n'a plus cette vision globale, cette vision holiste d'un corps qui serait lié à beaucoup d'autres paramètres tels que l'environnement, l'histoire de vie, etc. Donc cette notion d'un corps comme un assemblage mécanique de pièces et d'organes remplaçables va biaiser la vision qu'on a de la compatibilité entre le corps et les dispositifs d'appareillage. Et ça, c'est renforcé par cet enchantement technologique dans lequel nous sommes actuellement. On a cet espoir en la science, en la médecine, on est persuadé qu'il suffit juste d'attendre un peu pour que la science trouve des solutions pour nos problèmes biologiques, médicaux, physiques, sans réaliser qu'il peut parfois y avoir des limites infranchissables. On ne peut pas toujours tout réparer par le biais des techniques, que le corps lui-même résiste à la médecine, résiste aux dispositifs technologiques. Ces visions-là, elles sont peu mises en avant parce qu'on a cet espoir, on a cet enchantement envers les progrès technoscientifiques qui nous laissent supposer qu'on peut tout réparer et que l'on peut tout surmonter grâce à la science. Et vous voyez ici l'image de Huger, qui est un amputé très connu aussi, qui contribue beaucoup au progrès de la gestion du corps amputé appareillé, qui dit sur cette image « Je ne vois pas de handicap, je ne vois que des mauvaises technologies ». L'idée derrière ça, c'est que pour lui, si les personnes sont encore restreintes dans leurs activités corporelles, c'est simplement parce que la technique n'est pas encore assez au point pour permettre de les réparer. Ça, c'est une vision très en vogue actuellement, c'est un paradigme qui est très défendu, que ce soit dans le milieu médiatique ou dans le champ scientifique, et c'est intéressant de voir qu'on considère actuellement que le corps est forcément remplaçable, réparable. C'est défendu par les idéologies transhumanistes dont je ne vais pas parler particulièrement ici, mais qui sont de plus en plus à la mode, que l'on prend en considération de façon de plus en plus sérieuse. Cette idée qu'on va pouvoir dépasser le corps, les capacités du corps grâce aux progrès technoscientifiques, tout cela est alimenté par cette vision donc de l'enchantement technologique face à une corporéité qui est considérée maintenant comme dévalorisée. Le corps, il est fragile, il est vulnérable, il est faible, donc il mérite d'être remplacé par les technologies. Et les personnes amputées, et notamment les jeunes générations, sont imprégnées par cela et sont au cœur de ces représentations. Pourtant, derrière cette figure du cyborg, que l'on voit beaucoup dans les œuvres culturelles, les œuvres médiatiques, subsiste un certain nombre de limites dont on ne parle jamais. Là, je vous ai mis à l'écran quelques situations de coulisses. Derrière l'idée du cyborg que l'on peut réparer à l'envi, il y a en réalité des ambiguïtés, des limites et des dysfonctionnements dont on ne parle jamais. À gauche, vous voyez un exemple d'une personne amputée qui ne peut pas accéder à la mer avec sa prothèse, puisque les prothèses ne sont pas adaptées au milieu aquatique, il faut des prothèses spécifiques. Donc, même si cette personne est capable de marcher parfaitement et peut-être considérée comme un cyborg dans sa vie de tous les jours, ici, il est en béquille, il doit rentrer dans l'eau de façon très compliquée. De même, sur la droite, vous avez cette personne dans sa salle de bain qui est obligée de tenir sur une jambe pour se laver. Derrière le cyborg, derrière la technique, il reste malgré tout un corps. Et ce corps, vous pouvez le voir au milieu de l'écran, reste un corps qui est mutilé, un corps qui est fragile et un corps qui n'est pas réparable. On ne peut pas faire repousser de membres, on ne peut pas ôter les cicatrices. Les prothèses sont toujours un substitut palliatif qui ne remplace pas la mutilation qui a été produite par l'amputation. D'autre part, beaucoup de problématiques du quotidien ne peuvent pas être réglées grâce aux prothèses, les questions des escaliers, des sols instables, etc. Donc, le cyborg amputé tel qu'il est suggéré dans les médias reste toujours un cyborg en situation non contextuelle, puisque dans la vie de tous les jours, il y a énormément d'obstacles et énormément de situations qui empêchent cette fusion corps-machine et qui renvoient les personnes amputées à leur vulnérabilité corporelle et à leur fragilité que l'on ne peut pas dépasser, que l'on ne peut pas réparer. Alors tout ceci a des conséquences. Il ne s'agit pas juste de comparer des discours pour dire la réalité, c'est pas comme la fiction. Ça a des conséquences. Ces discours collectifs, ils ont un impact sur le milieu de l'appareillage. Et j'en ai dénoté quelques-uns dans mes travaux. Les quatre principales que j'ai relevées, c'est tout d'abord la déception et le découragement des patients face aux promesses ou aux effets d'annonce qui sont produits dans les médias ou dans les discours scientifiques. On promet des prothèses qu'on peut commander par la pensée, qui réparent le corps, etc. On a des discours, comme j'ai dit plus tôt, très enthousiastes sur les possibilités prothétiques. Mais on en est bien loin dans les centres de réadaptation, parce que beaucoup des produits présentés sont des produits prototypiques, ou ce sont des produits qui ne sont pas mis à l'épreuve du quotidien, qui vont fonctionner en laboratoire, mais une fois dans les situations de vie réelle, cela va être beaucoup plus compliqué. Ce qui explique d'ailleurs le taux d'abandon important des personnes appareillées, puisque dans leur vie de tous les jours, elles se rendent compte que c'est beaucoup plus difficile et douloureux que prévu. Donc on constate une certaine propension au découragement de la part des patients, parce qu'ils s'attendaient à mieux, et ils se rendent compte qu'on ne peut pas les réparer comme ils l'espéraient. Un autre risque, c'est celui du surappareillage. À travers une confiance trop grande dans la technologie, l'idée que la prothèse va régler tous les problèmes va peut-être pousser les gens à chercher absolument à bénéficier de prothèses alors qu'ils n'en avaient peut-être pas besoin. Ça concerne tout particulièrement les enfants agénésiques, les enfants qui naissent sans membres, leur schéma corporel est complet et en théorie ils se débrouillent très bien sans leur prothèse, ils se débrouillent même mieux sans leur prothèse puisque leur corps est complet. Et le fait de leur imposer une prothèse va créer ce qu'on peut appeler un membre surnuméraire. Des travaux ont été faits par les associations françaises d'agénésie sur cette notion de membre surnuméraire. Un enfant agénésique que l'on appareille, il a un membre en plus qui n'est pas naturel pour lui et qui ne rentre pas de la même manière dans son schéma corporel. Pourtant, beaucoup de parents veulent absolument appareiller leurs enfants parce que ça permet de donner une image corporelle plus normée, plus complète, qui s'adapte plus aux injonctions sociales. Donc le risque, c'est de forcer les enfants à porter une prothèse dont ils n'auraient pas besoin, sous couvert de cette idée que la réparation du corps passe forcément par l'outil prothétique. Une autre conséquence sur le monde de l'appareillage, c'est celle des financements et des remboursements. La recherche est très tentée de beaucoup travailler sur des dispositifs impressionnants, comme des mains polydigitales qui ont plusieurs doigts qui bougent en même temps. Mettre en place, en fin de compte, des financements sur des dispositifs qui ne sont pas fondamentaux pour les personnes, et on peut occulter des recherches qui pourraient être plus essentielles, comme la question du confort dans la voiture, la question de la sécurité de la marche lors de l'appareillage. Bref, on va se tourner vers des caractéristiques qui sont spectaculaires, et la recherche va chercher à financer, sera elle aussi attirée par ce côté spectaculaire, et aura tendance à occulter les dimensions plus modestes, mais qui sont en réalité fondamentales pour les personnes concernées dans leur vie de tous les jours. Enfin, la dernière conséquence négative que l'on peut observer suite à cette image biaisée du cyborg et du corps réparable, c'est celle des discriminations sociales et des stigmatisations dues au statut ambigu donc, que les personnes amputées appareillées ont dans certains discours et imaginaires collectifs. Le fait qu'elles ne soient plus considérées comme handicapées, mais au contraire augmentées. Ça a été le cas, par exemple, d'Oscar Pistorius lorsqu'il a voulu se présenter en course valide et qu'on a considéré qu'il était amélioré, augmenté, dopé technologiquement. Donc il a subi ce regard discriminatoire. De façon générale, il ne faut pas qu'on oublie que les discours conditionnent les possibilités des personnes, ce qu'on appelle les injonctions identitaires. Si vous dites sans arrêt qu'une personne amputée est tellement valide qu'elle n'a pas besoin de se stationner sur les places prioritaires, qu'elle n'a pas besoin d'attendre, qu'elle n'a pas besoin de passer devant dans les files prioritaires parce qu'elle est valide, vous allez pousser ces personnes à croire elles-mêmes qu'elles n'ont pas la légitimité pour bénéficier de ces traitements spécifiques dont elles ont pourtant besoin. Donc, le problème du discours, c'est qu'il crée des réalités d'usage, il crée des réalités identitaires, il oblige les personnes à rentrer dans une catégorie qui n'est peut-être pas correspondante avec la réalité de leur vécu. Au-delà de ces conséquences négatives, on peut tout de même signaler un certain nombre de résultats positifs de cette médiatisation spectaculaire des personnes amputées. On va finir sur un beau tableau tout de même. C'est la dynamique d'amélioration d'image, de l'image du handicap qui devient porteuse d'espoir pour les amputés et les pousse à mieux croire en eux et en leurs possibilités. C'est-à-dire qu'auparavant, lorsque aucun amputé sportif, par exemple, n'était médiatisé, les personnes bénéficiant d'une prothèse étaient persuadées que le sport n'était pas une activité à leur portée et ne cherchaient même pas à tenter de réaliser ces activités. Aujourd'hui, comme il devient de plus en plus commun de montrer les exploits de certaines personnes appareillées dans les médias, les nouveaux amputés savent qu'ils ont une possibilité et que ce n'est pas forcément inaccessible pour eux. Et donc ça les pousse à oser plus facilement retourner au travail, faire des activités sportives, aller se baigner. Bref, ça améliore leur propre image parce qu'ils savent que ces possibilités existent. L'autre point positif, c'est la question du body positivisme, qui est un mouvement de pensée récent qui cherche à franchir l'image d'un corps normé et dire que tous les corps sont beaux, tous les corps sont légitimes et qu'on ne doit pas avoir honte de son corps, au contraire, on doit accepter son corps tel qu'il est. Ça prône une meilleure acceptation de soi et de sa condition. Et le fait de voir de plus en plus d'amputés dans les médias qui ont des prothèses visibles, ça change aussi la donne dans les choix d'appareillage des patients. Lorsque j'ai commencé mon terrain en 2010, les prothèses décorées étaient quasiment inexistantes et les patients cherchaient surtout à cacher leurs prothèses derrière un habillage couleur chair, à rendre invisible leur handicap en mettant des jupes longues ou des pantalons larges, bref, à ne pas montrer leur situation. Et en 2016, quand j'ai refait un deuxième terrain, qu'entre-temps la médiatisation de prothèses spectaculaires était passée par là, j'ai pu constater que de plus en plus de personnes décident de décorer, de personnaliser leurs prothèses et ont moins peur de porter des shorts, de porter des manches courtes, n'ont plus cette frayeur d'être jugées sur leur apparence physique et assument leurs conditions de façon différente et mettent en place une certaine créativité dans l'expression de leur personnalité, ce qui est une très bonne chose. Enfin, la dernière conséquence positive, c'est la façon dont les enfants se réapproprient leur corps et viennent bousculer les normes progressivement, en douceur. On l'a vu, les enfants sont au cœur de beaucoup d'images médiatiques. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été faites ces dernières années pour leur offrir des appareillages personnalisés, amusants, spectaculaires, notamment à partir de leurs héros comme les super-héros, la Reine des Neiges. Il y a beaucoup de prothèses marketées maintenant par Disney ou autres. Et discrimination que les enfants pouvaient subir à l'époque parce que on sait que les petits sont parfois cruels entre eux, cette fois-ci, ces enfants sont porteurs d'une plus grande confiance en eux parce qu'ils savent qu'ils vont être plus facilement acceptés, que leur dispositif est plus facilement acceptable. Et donc petit à petit, ces cyborg children, comme pourrait le dire Anna-Maria Lamel, viennent proposer une nouvelle norme et on peut s'imaginer que dans quelques années, il sera tout à fait acceptable pour un enfant de présenter ses prothèses sans avoir peur de se sentir jugé ou observé. Alors au final, ma recherche cherchait quand même à proposer quelques pistes de résolution, quelques solutions pour surmonter ces malentendus, pour améliorer la compréhension que l'on a des personnes amputées et surtout la compréhension que l'on a des possibilités des dispositifs prothétiques. Donc ce que j'ai cherché à montrer dans le cadre de cette recherche, le titre de ma thèse c'était « Du corps reconstitué au corps reconfiguré », c'est que l'image que l'on peut avoir des personnes amputées dans les médias est celle d'un corps reconstitué, c'est-à-dire un corps qui est remplaçable, totalement réparable, que l'on pourrait incarner dans la figure du cyborg. Eh bien, cette image de corps reconstitué, elle n'est pas tout à fait réelle, elle est biaisée, et qu'en réalité, on serait plutôt dans une dynamique de corps reconfiguré, c'est-à-dire créé différemment, rétabli différemment, dont les modalités et les possibilités d'action sont changées à tout jamais, sans retour possible à la norme. Donc on passe d'un corps totalement remplaçable à un corps réparable, voire un corps vulnérable. Il est important de se souvenir de cette vulnérabilité qui est inhérente aux personnes amputées appareillées et qui constitue aussi leur identité et que l'on doit respecter comme telle. Mon objectif, c'était de mener une déconstruction de la pensée de déconstruire certains mythes et de rétablir une vision plus pragmatique des choses. Et les pistes que j'ai proposées dans les conclusions de mon travail étaient réparties en plusieurs axes. Tout d'abord, j'encourage les médias, les scientifiques, mais aussi chacun de nous, à traiter les technologies et leurs possibilités de façon plus pragmatique, c'est-à-dire en remettant au centre des démarches la valeur d'usage au quotidien. L'objectif, c'est pas de poursuivre la science pour la science et de créer de la technologie pour l'exploit technologique, mais bien pour que cela puisse être utilisé tous les jours, en toutes les conditions, par les personnes concernées. Donc, ce qui est important, c'est de garantir la volonté d'utilisation par l'usager pour éviter les abandons et les déceptions, et donc l'efficacité réelle de la prothèse en situation d'usage. Le deuxième grand axe de piste que j'ai proposé, c'était de modérer les suppositions et les perspectives d'augmentation humaine, de déconstruire le mythe de la réparation du corps en se rappelant ou en réalisant que la prothèse n'amène que des solutions qui sont partielles. Elle ne peut pas totalement remplacer le corps, elle ne peut que le soutenir et l'accompagner dans certaines situations. Ces solutions, elles sont donc situationnelles, elles concernent certains aspects de la vie, mais ne peuvent pas être transférées à toutes les situations. On l'a vu, dans beaucoup de situations, les personnes doivent abandonner leur prothèse ou changer de prothèse. Et dans tous les cas, la réparation prothétique, elle est palliative. Une prothèse ne sera jamais une jambe, elle ne sera jamais le membre initial, et le corps de l'amputé résistera toujours d'une manière à l'autre, ne serait-ce que par des douleurs, des inconforts, des blessures, à la technologie. Le troisième axe, c'est le fait de renouveler notre approche du handicap, notamment en utilisant les outils proposés par les Disability Studies, c'est-à-dire en rendant notre approche du handicap plus inclusive, en écoutant plus la parole des personnes concernées, parce que ça se fait de façon générale, pas que dans le cadre du handicap. La parole est souvent donnée à des personnes qui ne sont pas concernées. Les hommes vont parler des femmes, les valides vont parler des invalides, etc. L'idée, c'est que cette fois-ci, les personnes concernées soient plus sollicitées, car elles ont une forme d'expertise et de compréhension ancrée de leur situation, et elles sont plus à même de mettre en avant les problématiques importantes et les limites éventuelles de certaines situations. D'autre part, la question interdisciplinaire est importante. Il faut croiser les points de vue médicaux, les points de vue en sciences humaines et sociales, les points de vue politiques, avoir une grille de lecture qui est beaucoup plus globalisante et beaucoup plus large pour permettre de repérer des problématiques qui seraient exclues d'un champ disciplinaire ou d'un autre. De façon générale, je proposais dans ce travail de nous appuyer sur la philosophie du soin et l'éthique du soin pour faire évoluer aussi la posture soignante ou la posture d'accompagnement, en amenant un déplacement de la prise en charge et de la prise en considération des personnes amputées, par exemple par des vecteurs tels que le care ou l'interdisciplinarité, c'est-à-dire en mettant en collaboration et en dialogue l'ensemble des acteurs qui sont concernés par la question du handicap pour réduire les biais de compréhension et d'action. Je vous donne un exemple. Dans les centres de réadaptation, les professions soignantes para, comme par exemple les psychologues ou les assistantes sociales, sont souvent mises à l'écart du processus habituel. Les patients doivent les solliciter pour pouvoir bénéficier de leurs services. Et je reste persuadée qu'une meilleure intégration de ces professions annexes peut permettre une prise en compte plus globale des problématiques de retour à domicile, par exemple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'approche médicale, elle est souvent technique. On va essayer de faire un processus de réadaptation qui est limité à la réparation du corps, mais une fois que la personne est retournée chez elle à domicile, il y a toute une dimension environnementale qui n'est pas forcément connue ni prise en compte par les patients qui évoluent en centre de réadaptation dans un milieu protégé, et le fait de donner plus de place aux assistantes sociales ou aux psychologues ou à des professions attenantes au retour à la vie normale permettrait une meilleure prise en charge et une meilleure compréhension du parcours long des patients et pas juste de la réparation technique de leur corps. Au regard donc de tous ces résultats décrits dans ma recherche, je considère que des actions plus inclusives donc, et des collaborations plus fortes peuvent permettre de renforcer l'efficacité et l'accompagnement des personnes amputées et appareillées du laboratoire de recherche qui crée les prothèses jusqu'au retour à terme, au long terme à domicile. Et il n'est jamais trop tard pour commencer à mettre en place ce type de travail, parce que la population amputée ne fera qu'augmenter en raison du vieillissement de la population, mais aussi de l'évolution de certaines maladies comme le diabète. Donc on va être de plus en plus concerné par ces problématiques. Et même au sein de la population des amputés actuelle, les enfants et les jeunes amputés aujourd'hui, dont les profils peuvent se confondre avec les cyborgs, on l'a vu, parce qu'ils sont encore tout jeunes, en bonne santé, et bien même ces cyborgs de demain, entre guillemets, ils finiront eux-mêmes par vieillir, et ils finiront eux-mêmes par se retrouver dans une situation de fragilité, de vulnérabilité et d'inaccessibilité. Aussi, il est important dès à présent de se saisir de ce genre de questions afin de préparer un avenir dans lequel les besoins de cette population seront pris en charge de la façon la plus juste, la plus adaptée et la plus éthique possible. Je vous remercie pour votre attention.